Si vous voulez bien, on va prier pour commencer. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin et je te prie, Seigneur, de me diriger maintenant, que je puisse être juste un canal pour ta parole et pour que tu puisses manifester ton esprit. Seigneur, je te prie qu'on soit à l'écoute de ta voix et Seigneur, qu'on soit obéissant aussi à ce que tu veux nous dire. Amen. En fait, ça... Ce que je veux vous partager là, ça fait très longtemps que je voulais le partager et ça n'a pas pu se faire. Donc je fais quelque chose aujourd'hui, c'est toujours pas la suite de Paul, on va y arriver un jour. Hein, mais là vraiment je l'avais sur le cœur et il y a eu tellement d'opposition que je me suis dit faut que je le partage. Donc c'est quelque chose qui a commencé avec une prière quand je suis revenu de la thèse d'un ami. Donc c'était le 13 novembre où j'étais assisté à la thèse d'un ami. Et en repartant, je me suis dit ce coup-ci je mets pas de musique et puis je vais prier. Et donc je priais le Seigneur vraiment qu'il continue son travail en moi, qu'il me permette de vivre des nouvelles choses et d'avancer avec lui. Il disait que j'avais besoin vraiment de quelque chose de nouveau, de continuer, d'avancer encore et de ne pas rester au point où j'en suis là. Et en fait, j'ai prié ça et je suis rentré. Et le lendemain matin, j'ai lu dans ma lecture qui était dans la suite des choses, le prophète Agée. Et en fait, c'est là où le Seigneur m'a parlé d'une manière assez forte. Donc, je continuerai le témoignage après. Je vais juste vous lire Agée et puis vous partager ce que j'avais reçu ce jour-là. Alors, juste pour situer peut-être avant de lire, donc vous connaissez plus ou moins l'histoire d'Israël. Après la mort de Salomon, le royaume a été divisé en deux. Donc, il y avait d'un côté Israël, le royaume du nord, en fait, avec 10 tribus. Et de l'autre côté, il y avait Juda, qui constituait que 2 tribus. Donc Juda et une partie de Benjamin. Et en fait, les tribus du nord sont très rapidement éloignées de Dieu. Il y a Jéroboam, qui a institué des veaux d'or et qui a institué tout un culte profane. Et au bout de quelques temps, en fait, le royaume du nord a été pris en captivité par la Syrie. Et donc, il ne restait plus que les 2 tribus de Juda et là, en fait une demi-tribu de Benjamin qui étaient ensemble, qui sont restés fidèles, on va dire, à Dieu un peu plus longtemps, avec de temps en temps des rois qui remettaient les choses en place et qui réveillaient le peuple, ou des prophètes. Mais finalement, ils ont été emmenés en captivité aussi, et à Babylone, eux. Et en fait, au bout de 70 ans, ce qui était prévu dans une prophétie, Cyrus, le roi de Perse, a pris le pouvoir à Babylone et il a permis aux étrangers qui étaient là de repartir chez eux. Et donc, aux Juifs de repartir dans leur pays. Et en fait, les Juifs sont une partie du peuple est repartie à Jérusalem et ils ont voulu rétablir la ville, reconstruire tout ça. Mais ils sont très vite découragés, il y a eu beaucoup d'opposition et ils sont restés, semblerait-il, 14 ans. Un peu comme ça, dans une ville plus ou moins construite. Alors, on voit dans le prophète Agée qu'il y avait des choses qui étaient construites, mais sans avoir reconstruit le temple, surtout. Et donc, ils sont restés longtemps comme ça, jusqu'à ce que Dieu envoie Agée. Alors, on a très peu de choses sur ce prophète-là. On sait juste qu'il est venu pour encourager, et essentiellement 2 personnes, mais tout le peuple, en réalité. Il est venu pour encourager Zorobabel, le gouverneur, et Josué, le souverain sacrificateur. Donc on peut prendre le prophète Agée. Alors il n'est pas facile à trouver, il est presque à la fin de l'Ancien Testament, après Sophonie. Il y a Sophonie, Agée, Zacharie, Malachie, donc c'est le avant-dernier prophète dans notre Bible. Donc les premiers versets, ils situent simplement ça. C'est juste le contexte. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit : le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous, vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Et en fait, ces versets-là, ils m'ont tout de suite fait penser au verset de Matthieu 6, 33, où on dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et en fait, ça, c'est un peu la version négative, c'est « Ne cherchez pas le royaume de Dieu, et toutes ces choses, je vais souffler dessus et vous aurez rien du tout. » C'est peut-être dit un peu sèchement, un peu directement, mais je pense que c'est à peu près ça quand il dit « Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié, vous buvez et vous avez encore soif, et vous faites tout ce qu'il faut, mais ça ne donne pas, ça ne produit rien et ce n'est pas suffisant, vous n'êtes pas satisfait. » Alors comment est-ce que ça m'a parlé à moi? Je me suis dit « Ben, moi, je n'ai pas de temple à rebâtir. » Et en fait, si, il y a un temple qui est à bâtir dans notre vie, et le temple, d'ailleurs, c'est nous-mêmes. Et dans Corinthiens 3, verset 16, on dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu, c'est nous. Et je vais prendre une analogie que vous allez tout de suite comprendre. C'est quelque chose que je comprends que depuis quelques mois maintenant. Prenons Raphaël. Et imaginons que je veuille l'empêcher de grandir, de se construire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le priver de lait. Je vais pas lui donner une nourriture. C'est méchant, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que le malin, il fait pour nous empêcher de grandir? Il nous prive de nourriture, tout simplement. Et comment est-ce qu'il fait pour ça? En fait, il nous éloigne simplement de la parole. Si on continue l'analogie, on peut la continuer assez loin finalement. On peut se dire, Raphaël, est-ce qu'il va boire du lait toute sa vie? Ben non, forcément, parce qu'il y a un moment, le lait, c'est pas suffisant. Il faudra qu'on lui introduise d'autres aliments, il va manger d'autres choses, parce qu'il a besoin de plus solide pour construire sa vie et pour grandir. Au tout début, ça va, le lait, mais après, non. Et il y a un moment donné même où, quand il quittera papa et maman, il devra se faire à manger lui-même. C'est encore pire, c'est l'étape d'après où là, il faut même préparer à manger, il faut éplucher les légumes, tout ça. Et bon, c'est très loin, hein, je vise loin là, mais dans un sens, vous voyez où je veux en venir dans la vie chrétienne. On commence avec du lait, on commence avec des choses faciles, qu'on nous donne, parce que Raphaël, il n'y a rien à faire. Il boit, et puis ça vient dans sa bouche. Voilà, c'est maman qui fait le lait. Et il n'y a vraiment rien à faire sauf boire. Et dans notre vie chrétienne, je pense qu'au départ, le Seigneur, souvent, il agit comme ça. On est là, et puis on reçoit simplement. On reçoit très facilement parce que le Seigneur, il nous donne du lait. Et dans 1 Pierre, on a un verset qui dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Mais après, il y a des autres versets qui vont encore plus loin que le lait. Comme l'enfant, il ne peut pas se satisfaire de lait, il a besoin de plus, il a besoin des éléments qu'il va trouver dans de la nourriture solide. Nous, c'est pareil, nous, on a besoin de nourriture solide. Et Paul, il dit, aux Corinthiens, toujours, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il en parle aussi et il dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture spirituelle, d'une nourriture solide, pardon. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. » mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ou on peut traduire parfaits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors quel est le rapport avec moi? Je me disais, Seigneur, je veux reconstruire le temple, oui, il faut lire ta parole. Mais non, en fait, lire sa parole, c'est facile et c'est dans un... Enfin, c'est facile. Dans un sens, c'est trop superficiel et c'est pas assez. Et je m'explique, on peut très bien lire la parole, on peut lire des livres qui tournent autour de la foi, des choses du Seigneur, on peut écouter des gens prêcher, on peut écouter des exhortations, tout ce qu'on veut, on fait que écouter et on fait que être passif. Il y a un moment où il faut de la nourriture solide. Alors je dis pas que les prédications et tout le reste c'est pas solide aussi, parce que ce serait négliger ce que le Seigneur nous donne. Mais il y a un moment où il faut nous-mêmes creuser, il faut nous-mêmes récupérer la nourriture qu'il nous faut. Et là c'est là où le Seigneur il touchait mon cœur. Et en fait, comme le bébé, à un moment il a besoin de, enfin le bébé, le garçon quand il aura 20 ans, le jeune adulte, il va devoir faire à manger lui-même et faire les efforts. Nous aussi, il y a un moment où il faut qu'on prenne la parole et pas juste qu'on lise et que ça passe comme ça. Il faut qu'on fasse les efforts, qu'on travaille et qu'on cherche. Et je crois que c'est là où, en tout cas pour moi, le Seigneur, il voulait en venir. C'était, c'est bien, tu lis, c'est bien, t'écoutes, c'est bien, tu fais telle ou telle chose, mais il faut aller plus loin, il faut creuser toi-même. Et en fait, on se contente très facilement de lire et de prendre juste le dessus, alors que quand on creuse, il y a une mine de diamants en dessous. Simplement, il faut creuser. C'est ça le problème. Les diamants qui arrivent en superficie comme ça, c'est assez rare. Et combien d'entre nous prennent leur Bible et régulièrement, enfin pas juste une fois de temps en temps, comme ça par remords peut-être, ou parce qu'on a du temps en trop, combien d'entre nous régulièrement, on prend la parole et on l'étudie? C'est-à-dire, on lit et puis on réfléchit, on médite, on dit qu'est-ce qu'il veut me dire le Seigneur et on fouille et puis on dit tiens, ce verset-là, il ressemble à celui-là, je vais aller le voir. Et on réfléchit comme si on étudiait un texte, comme si on étudiait une loi ou même un manuel d'un appareil. Si vous y connaissez rien en appareil photo et qu'on vous offre un appareil, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lire le manuel, et vous n'allez pas juste le lire une fois, parce qu'au début, vous allez voir, il y a on-off pour l'allumer, ça déjà, je comprends, puis tout doucement, vous avancez, vous avez lu qu'il y avait tel truc, vous revenez en arrière, et après, quand vous avez commencé à faire des photos de base, vous le relisez encore, parce qu'il y a encore des choses où, ah oui, ça, je peux le régler plus finement, je peux faire telle ou telle chose, et le manuel, si vraiment vous en avez envie, si vous en avez besoin, vous allez le fouiller à fond et vraiment le travailler jusqu'à ce que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Et si on fait ça avec des objets, si on fait ça avec des appareils, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça avec la parole? Pourquoi est-ce qu'on se contente de toujours recevoir, toujours écouter et qu'on ne vient pas chercher nous-mêmes ce qu'on a besoin? Et là, le Seigneur, il me dit en tout cas, tu te comportes comme un enfant. Tu es comme un enfant et tu te contentes juste de recevoir. Maintenant, sois adulte, construis le temple. Et pour le construire, tu as besoin de quelque chose de solide que tu iras chercher toi-même. Et dans un sens, c'est bon parce qu'il y a des prédications de temps en temps à faire, il y a les ados, et ça donne l'occasion de chercher, d'aller fouiller et de trouver des choses. Mais même quand on n'a pas ça, il faut absolument chercher, il faut travailler. Dans le verset 4, il résume bien la situation. L'Éternel, il dit « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées ?» quand cette maison est détruite. Et je pense que là est tout le souci, c'est qu'on pense fortement à notre propre maison, nos propres choses à nous, mais que la maison du Seigneur, que le temple de Dieu, finalement la seule chose qui va rester après, et bien ça, on en prend beaucoup moins soin et on y travaille beaucoup moins. Donc le Seigneur donne toutes les conséquences, l'insatisfaction et le fait que ça ne porte pas assez de fruits. On a beau essayer de faire plein de choses, ça apporte que le 10% de ce que ça pourrait parce que le Seigneur lui-même souffre dessus. Et c'est ça que je trouve presque terrible. Parce que je sais plus où c'était, à l'endroit, au verset 9, il dit « Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. » C'est lui-même, il va souffler dessus pour qu'il y ait une insatisfaction et pour qu'on recherche plus. Et des fois, on a tendance à accuser le malin à tort. On se dit, c'est le malin qui fait ça, c'est pas bien et tout ça. Et, Et c'est lui qui retire les bénédictions de Dieu. Je crois que des fois, c'est Dieu lui-même qui les retire. Alors, il y a des cas où c'est le malin aussi, bien sûr, mais dans un sens, je ne suis pas sûr que le malin puisse retirer ce que le Seigneur nous donne. Et si le Seigneur donne quelque chose, il est le seul à pouvoir le reprendre, ou en tout cas l'enlever pour un temps. Parce qu'il ne retire pas ses bénédictions, il ne retire pas les dons qu'il a donnés. Alors, ensuite, au chapitre 2, en fait, ça continue. Donc ce matin-là, forcément, j'ai fait tout le prophète. Et après, dans les versets suivants, le Seigneur est fort encourageant, je trouve. Et donc, dans Agée 2, à partir du verset 4, il dit « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. » Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Et ça, c'est vrai que c'est rassurant de se dire, ben, même quand moi, je néglige le temple du Seigneur, je néglige ma propre vie spirituelle, et ben, le Seigneur, il reste fidèle à son alliance et il continue à prendre soin de nous. Il nous dit, fortifie-toi et travaille, je vais être avec toi, je suis avec toi. Même quand ça va pas, même quand je souffle sur les choses pour les éloigner de toi, je suis quand même avec toi. Quand il dit « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte », on peut le prendre directement pour nous. Je suis fidèle à l'alliance que j'ai faite avec toi quand t'es sorti du péché, quand t'es sorti de nouveau, quand t'es sorti de l'Égypte, l'oppression, c'est-à-dire le royaume du malin, quand t'étais sous le malin avant, t'en es sorti, je suis venu avec toi, je suis jamais parti. Seigneur, il dit, je vous abandonnerai jamais, je vous laisserai tomber, je ne vous laisserai jamais tomber. Et là, il nous le répète, il dit, je reste fidèle avec vous à l'alliance que vous avez faite. Et des fois, on peut avoir le doute aussi de se dire, ben, est-ce que finalement son esprit, il est encore avec moi? Est-ce qu'il œuvre encore dans ma vie? Et le Seigneur, il dit, mon esprit, il est au milieu de vous aussi. L'alliance, elle est restée là, mon esprit, il est resté là. Le Seigneur, il change pas, il est resté pareil, et tout ce qu'il a fait au début de notre vie chrétienne, il continue à le faire. Mais il y a un moment où il faut être adulte, il faut grandir, et il faut chercher nous-mêmes, creuser et travailler. En fait, après, plus loin, le Seigneur réexplique encore la situation, et dit « Considérez ce qui s'est passé ». Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel, donc avant qu'on s'occupe de la vie spirituelle, alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Et là, c'est le Seigneur qui frappe vraiment et qui... Il frappe, il châtie ceux qu'il aime. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. À partir du moment où vous occupez de votre vie spirituelle, où vous creusez, où vous travaillez, alors le Seigneur y répand sa bénédiction, et seulement à ce moment-là. J'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. Et le verset suivant qui m'intéressait. « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, et là on peut chacun mettre notre nom, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. » Comme un sceau, pas le sceau, le fou, n'est-ce pas? Mais, bon, il était facile, mais fallait. Et ça, vraiment, c'est le Seigneur qui nous dit, je veux vous bénir, je veux, et je m'en retiens, Parce que sinon, vous ne comprendrez pas. Et on imagine déjà avec Raphaël, des fois, je voudrais tellement te donner ça, mais là, je ne peux pas parce que c'est pour ton bien. Et quand tu auras compris ça, alors je pourrai te donner cette chose-là. Et le Seigneur y est exactement la même chose avec nous. Occupe-toi de ta vie spirituelle, c'est hyper important. C'est la seule chose qui vaille la peine. Le jour où on mourra, c'est la seule chose qui reste. Et pourtant, on prend tant soin de tout ce qui est autour. Et le Seigneur nous dit, je vais te bénir si vraiment tu t'occupes de ma maison. Alors en fait, ces choses-là, donc je les ai lues le matin. Donc j'étais revenu de la thèse le mercredi. Et donc le jeudi matin, je lisais ça. Et toute la journée, je me suis dit, aujourd'hui, je vais mettre à étudier la Bible, je vais trouver un passage, je vais commencer. Même si c'est pas longtemps, je vais le faire. Et toute la journée, il y a eu des trucs, il y a eu des choses, il y a eu tout un tas de choses. Il y a eu Raphaël qui avait des coliques, il y a eu telle chose, il fallait s'en occuper. Et finalement, je suis arrivé au soir et j'avais rien fait. Et j'étais déçu et je me suis dit, il faut que je le partage avec Maï, c'est important, il faut que... Enfin, pour moi, c'était vraiment important, c'était quelque chose de très clair de la part du Seigneur. Et quand, en fait... On a voulu le soir prier et lire la parole. Raphaël était super sage juste avant. Il y a eu des moments comme ça où il était sage. Et en fait, il était tout sage sur le fauteuil. Au moment où on a commencé à parler, je lui ai dit, j'avais un truc dans AG ce matin. Grosse colique. Et là, il s'est mis à hurler et pas moyen de s'entendre. On s'est dit, Seigneur, il y a vraiment quelque chose là. C'est pas juste du hasard. Il y a une opposition. Depuis ce matin, j'arrive pas. Il y a toujours des pépins, toujours des trucs. Et là, je veux parler de ça. Et maintenant, il y a des coliques alors qu'il n'y en a pas eu depuis plusieurs heures. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on a prié, et en fait, on a mal prié. Parce qu'on a demandé au Seigneur de nous donner le temps de prier, de lire sa parole. Il l'a fait. On a pu discuter de tout ça après. Et c'est là où on a vu la main du Seigneur. Parce qu'on a prié, et quelques secondes après, il n'y avait plus rien. Alors, hein, on était assez sciés parce qu'on s'est dit, oh, punaise, le malin, il a quand même des choses, il est capable de perturber avec tout ce qu'il trouve sous la main. Et imaginez qu'il est capable d'utiliser les coliques de notre bébé. Et là, la première prière, ça a été de se dire, il n'a aucun droit dans notre famille. Il n'y a aucun droit parce qu'on lui appartient. Et c'était vraiment une réaction de vraiment, Seigneur, on a besoin de toi parce que le malin, il fait tout pour nous en empêcher. Et vraiment, dans nos vies, c'est classique, il y a tout un tas de choses qui fait que quand on veut étudier la parole, il y a toujours quelque chose d'autre à faire avant. Quelque chose de plus urgent, ou quelque chose où on se dit, ça va pas prendre longtemps, je vais le faire vite fait, comme ça, après, je suis tranquille. Et en fait, ça prend plus de temps que prévu. Souvent, les choses informatiques, d'ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là, beaucoup de fois, outre les coliques de Raphaël. Et en fait, donc, on a pu parler avec ça, de ça avec Maï. Et après, on s'est empêché de reprier, pour dire, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la possibilité de manger tranquille. Parce qu'en fait, depuis à ce moment-là, en fait, mi-novembre, le soir, il voulait jamais, 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 jamais être sage. Jamais. Il n'y a jamais moyen qu'on mange tranquillement. Il pleure toujours le soir, il faut le prendre à bras et c'est un bébé, quoi. Et en fait, ce soir-là, il a été sage et on a mangé sans... Il dormait, quoi. Il dormait. Et on a dit merci Seigneur parce qu'il y a vraiment des choses comme ça où c'est net. On ne peut pas se tromper et on sait que ça vient du Seigneur. Et le lendemain, en fait, le lendemain ou le jour d'après, je ne sais plus, on a eu exactement la même chose, en fait. On a voulu prier le soir, et hop, les coliques qui se déclenchent. Et on s'est dit, bon, allez, on prie, ça va aller mieux. Et effectivement, ça a été mieux, on a pu prier. Et c'est, même pour préparer ça, en fait, ce message-là, je voulais le donner mardi à l'étude biblique la semaine dernière. Il se trouve que c'est ce jour-là que j'ai appris que mon frère était décédé. Alors ça calme quand même, hein, ça... Du coup, j'étais pas à l'étude biblique et je l'ai pas partagé. Et vraiment, on voit, quand le Seigneur nous ouvre les yeux, c'est pas nous-mêmes qui les ouvrons, on voit que le malin, il fait tout ce qu'il peut pour nous empêcher d'étudier sa parole, pour nous empêcher de grandir. C'est uniquement son but. Et quand on se dit, si on empêchait Raphaël de manger, on est des gens horribles. Et ben, le malin, il est horrible. Il nous empêche de manger. Et il fait ça très bien, c'est ça le problème. Alors en fait, je voulais continuer quelques petites choses sur la Bible. On sait tous que c'est la parole vivante, c'est la parole de Dieu. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la Bible, elle est la source de notre vie. C'est elle qui donne naissance à notre foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. S'il n'y avait pas la parole de Dieu, on ne saurait pas ce que Dieu a fait pour nous, on ne pourrait pas naître de nouveau. où le Seigneur aurait trouvé d'autres moyens, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est l'outil principal du Seigneur pour nous parler. Et la Bible, c'est aussi, on l'a vu tout à l'heure, le lait spirituel. C'est l'aliment solide. C'est la parole de Dieu, c'est vraiment tout ce qu'il nous faut pour naître, grandir et devenir mature dans la foi et après pouvoir servir le Seigneur. Et la faculté de tout ce qui a la vie, c'est de pouvoir donner la vie. Tout ce qui est mort ne peut pas donner la vie, ça peut pas. Et en fait, c'est exactement la même chose avec la Bible. Pourquoi elle est vivante ? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une parole vivante ? Bah parce qu'elle donne la vie, tout simplement. Si quelque chose n'a pas la vie, ça peut pas donner la vie. Et c'est là qui est dans Jacques dit Dieu nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc il nous a engendrés, il nous a fait naître selon sa volonté par la parole de vérité. Donc la Bible elle est là, on en a besoin pourquoi ? Pour donner naissance. Et c'est une des raisons pour laquelle il faut l'étudier, il faut la manier vraiment par cœur, parce que c'est avec ça qu'on peut donner naissance à d'autres personnes pour le Seigneur, c'est avec ça qu'on peut porter l'Évangile, c'est notre seule arme, la parole de Dieu. C'est la seule arme pour attaquer, tout le reste, c'est des armes pour se défendre et pour être équipé. Et en fait, ça, l'idée que la Bible donne la vie, ça rejoint la parabole du semeur. Donc quand vous la connaissez tous, Le semeur vient dans son champ, il jette la semence et il y a une partie de la semence qui tombe dans les ronces, une partie qui tombe sur les cailloux, dans le chemin. Et en fait, il n'y a que la partie qui tombe dans la bonne terre qui porte du fruit et donc qui redonne une nouvelle semence finalement. Et quand on prend cette comparaison-là, moi je pensais aux fermiers. Il y a des fois en rentrant le mardi soir à 10h, les fermiers ils sont encore dans leur champ avec les projecteurs dans le noir et puis ils travaillent. Et je pense qu'il ne faut pas voir les différentes zones du champ comme quelque chose que le Seigneur donne simplement. Soit on est rocailleux, soit on est un bon champ, soit on est une partie du chemin. Je pense qu'on a tous un peu de tout, sauf qu'il faut travailler nous-mêmes. Il faut faire le travail du fermier d'aller enlever les cailloux, d'aller enlever les ronces. Et c'est notre travail à nous aussi. Il ne faut pas se dire, c'est simplement, il faut prier que le Seigneur me donne la bonne terre et puis voilà. Il y a un travail à faire. Le fermier, il se contente pas de... Ce serait merveilleux. Il se contente pas de prier avant de jeter sa semence, que ça puisse tomber sur de la bonne terre, et hop, voilà. Il travaille. Il y va lui-même, il enlève les cailloux, il passe des journées et des journées. C'est son travail. Il passe des journées à rendre la terre bonne. Et depuis la Genèse, depuis que Dieu a maudit la terre, il faut suer, il faut travailler, il faut fournir des efforts. Et dans un sens, dans notre vie, pour avoir une bonne terre, quelque chose qui va pouvoir donner la vie, il faut travailler, il faut suer, il faut faire des efforts. Et on peut pas devenir, on peut pas passer du bébé tout de suite à l'adulte comme ça. Il y a tout un travail, des choses à apprendre. Et c'est pareil dans la vie spirituelle. On peut pas juste se dire, je vais rester là et puis je vais apprendre des choses et je vais grandir. Il y a un effort à faire, il y a un travail à faire. Le verset de tout à l'heure, il était intéressant, je ne sais plus sur quelle page je l'avais, mais dans Hébreux, le verset qui dit « Vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous êtes encore des enfants et vous n'avez pas l'expérience de la nourriture solide. » Et des fois, je me dis « Mais depuis combien d'années on est dans l'Église ? Combien de prédications on a entendues ? Combien de messages on a entendus ? Est-ce qu'on est des maîtres, réellement ? Est-ce qu'on maîtrise la parole de Dieu ? » Personnellement, non. Ma réponse à moi, elle est claire. Et c'est pas une fierté, c'est une honte qu'il faut avoir. Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Vous devriez être des maîtres. » Il n'y a pas de raison. Simplement, vous n'y travaillez pas assez et vous contentez du lait plutôt que de prendre de la nourriture solide. Et ça aussi, c'était la parole du Seigneur pour moi. Ça fait combien d'années que tu entends les choses de Dieu et pourtant, tu en es encore à des choses des fois de base. Parce qu'il faut travailler, il faut faire des efforts et on prend les choses beaucoup trop facilement. C'est sûr, le Seigneur fait du travail et c'est lui qui nous aide. Mais il faut faire un effort, on a notre partie à donner aussi. Donc la Bible est à l'origine de la vie, c'est elle qui donne la vie, et puis c'est elle qui nous permet de grandir. Donc c'est je crois que c'est le verset que j'ai lu tout à l'heure. « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et en fait, le problème, c'est que régulièrement, on se contente de choses faciles ou on se contente d'autres choses que ce qu'on aurait besoin. Et je pensais à Raphaël, quand il est affamé, qu'il a vraiment faim, qu'est-ce qu'il fait ? Il crie très fort. Et en fait, s'il a faim comme ça et qu'il crie, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut essayer de le bercer, ça ne marche pas. On peut essayer de jouer avec les doudous et tout ça, ça ne marche pas non plus. On peut essayer de le câliner, de le prendre dans les bras, il s'en fiche. Qu'est-ce qu'il fait ? Il hurle. Il hurle. On peut lui chanter une berceuse, on peut faire tout ce qu'on veut, il va hurler. Pourquoi ? Parce qu'il a faim. Et quand il a faim, tout ce qu'il veut, c'est manger. Voilà. C'est très simple, un bébé, hein. Mais pourtant, nous, quand on a faim, spirituellement, on essaye autre chose. On tourne un peu autour du pot et puis on prend des petits trucs par-ci, par-là. On prend l'apéritif, ça coupe un peu la faim. En fait, ça nous donne plus faim qu'autre chose. Et puis, on ne va pas à la chose qu'on a besoin. On ne voit pas la nourriture solide. Quand on a vraiment faim, on ne se contente pas de prendre, je ne sais pas moi, une tartine et un morceau de salade. On prend un bon repas parce qu'on a faim. Et le problème, c'est que spirituellement, on fait la même chose. On voit qu'il y a plein de choses qui ne nous satisfont pas. On a faim, et puis ben, on se contente de... Tiens, je vais aller à l'étude biblique cette semaine parce que j'en ai besoin. Et puis on écoute les gens qui ont fait l'étude. Ils nous ont pré-mâché la nourriture et ils nous le donnent. Et non, il faut nous-mêmes qu'on prenne la nourriture. Moi, ouais, c'est pas ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour nous parce que des fois, on se dit... Mais je suis pas, j'ai pas fait d'études. Moi, je sais pas comment il faut étudier la Bible. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je suis pas capable de prêcher. Ben, on se retrouve ici sans être capable. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur, il nous rend capable. Mais en fait, pourquoi est-ce que le Seigneur aurait donné sa parole et aurait donné juste à quelques-uns de pouvoir l'étudier, de pouvoir se nourrir ? Il nous a donné à tous de pouvoir nous nourrir. Et l'enfant, quand il a grandi et qu'il a eu ses dents, qu'il a fait ses dents, il est capable de manger des aliments durs. On est tous capables de manger des aliments solides une fois qu'on a ce qu'il faut. Et le Seigneur, il nous donne tout ce qu'il faut pour manger de la nourriture solide. Le bébé affamé, ça me faisait penser à un verset dans Jérémie qui dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Quand on a vraiment faim, on dévore et limite on ne fait pas trop attention aux conventions, on y va parce qu'on a faim. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Est-ce que c'est notre cas ? Est-ce qu'on dévore la parole de Dieu ? Est-ce qu'on est joyeux d'avoir étudié la parole ? Ouf, c'est bon, j'ai fait mon quota pour aujourd'hui, j'ai étudié la parole quand même un peu et... Voilà. Alors, on ne le dit pas comme ça, bien sûr, mais des fois, on fait les choses juste pour se soulager dans notre conscience. On étudie un petit peu et puis on dit, bah, c'est sûr, ça nous fait du bien. Parce que quand on a faim et qu'on mange un petit peu, ça fait déjà un petit peu de bien. Mais souvent, on se le fait juste pour se soulager. Et en fait, on ne devrait pas le faire juste pour soulager. On devrait vraiment pour se nourrir complètement et pour grandir et pour en profiter pleinement. La Bible, elle se décrit elle-même comme un miroir. C'est dans 2 Corinthiens 3, verset 18, le verset est connu. « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. » Donc nous tous qui contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ce miroir, c'est quoi ? C'est la Bible, c'est la parole. Le seul moyen de contempler la gloire de Dieu, c'est de regarder dans la parole et de voir qui il est réellement, d'apprendre qui il est réellement. Et la réponse au miroir, pourquoi le miroir c'est la parole, on l'a trouvé dans Jacques, qui dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va » et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et ça rejoint bien les versets qu'on a eus tout à l'heure dans Agé. Il ne faut pas être un auditeur oublieux, et il ne faut pas simplement être auditeur, il faut persévérer, il faut se mettre à l'œuvre. Et alors, on sera heureux dans notre activité. Il y a vraiment quelque chose à travailler, persévérer, et il y a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de verbes comme ça qui, dans la parole, qui disent de persévérer, de travailler. Et dans Philippiens 2, verset 12, on voit travailler à votre salut. Et travailler, c'est jamais facile. Des fois, on peut prendre du plaisir à travailler. Et c'est l'idéal dans un sens d'avoir un travail où on se fait plaisir. Et ça devrait être l'idéal du chrétien de se faire plaisir en travaillant la parole de Dieu. Je pense aussi à des fois à Norman Meaton. Je ne sais pas si ça vous fait la même impression. Norman Meaton ou d'autres prédicateurs qu'on estime des grands prédicateurs, en tout cas des hommes utilisés par le Seigneur. Ce qui nous marque, c'est qu'ils citent énormément la parole. Et Norman, on a l'impression qu'à chaque phrase, il cite un verset et la référence à chaque fois. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 2, verset 3. Hein, et il a une connaissance de la parole qui est énorme. Et je sais que ma réaction, ça a toujours été... C'est génial, hein. J'aimerais bien être comme lui. Bah ouais, mais pour être comme lui, il faut lire la parole et il faut l'étudier. C'est pas en lisant l'Ancien Testament, on va faire un bon cas, une fois l'Ancien Testament par an et puis allez, deux fois le Nouveau Testament par an, c'est quelque chose d'assez correct, je pense. Même en lisant ça, c'est pas comme ça que vous allez connaître par cœur tous les versets que Norman cite. Il les connaît par cœur, pourquoi ? Parce qu'il les a lus, relus, étudiés. Et à force de les étudier, à force de les méditer, ils sont inscrits tout seuls. Il n'y a pas eu besoin non plus de faire un effort, dire « Bon, alors aujourd'hui, j'apprends 5 versets. » Et hop, c'est parti, je lis Agé versets 4 à 9, et j'apprends ça aujourd'hui. Il l'a appris simplement parce qu'il a médité, parce qu'il a travaillé. Alors simplement, c'est facile à dire. Mais si on veut être comme lui, si réellement ça nous intéresse, alors il y a du travail, encore une fois. Une dernière exhortation que je voudrais vous laisser, c'est dans 1 Samuel, chapitre 15. C'est juste après que Saül ait désobéi, en fait. Samuel lui avait dit d'attendre et qu'il allait offrir un sacrifice et qu'après, il pourrait partir à la guerre contre Amalek. Et en fait, Saül a pris peur, il a vu les armées d'Amalek avancer, le peuple qui se demandait quoi, et il s'est dit « je vais offrir moi-même le sacrifice ». Et en fait, au moment où il l'a offert, Samuel est arrivé. Et donc Samuel lui dit, dans 1 Samuel 15, verset 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Et en fait, les choses importantes, c'est vraiment, il ne faut pas s'imaginer qu'on peut grandir juste en offrant des sacrifices, en essayant de faire des choses. La première chose à faire, c'est de reconstruire le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, c'est nous. La première chose à faire, c'est de le reconstruire et c'est d'obéir simplement à la parole. Et à chaque fois qu'on étudie et qu'on apprend des choses... Le point suivant, c'est « maintenant j'obéis et je fais ce que le Seigneur m'a dit ». Et ce qui était intéressant aussi dans Agé et là maintenant, c'est l'Éternel trouve du plaisir dans l'obéissance. Et quand vous voyez dans Agé tout à l'heure, Dieu disait « si tu reconstruis mon temple, si tu fais ces choses, j'en aurai de la joie et du plaisir ». Et on peut faire plaisir à Dieu. Mais il faut travailler, il faut faire ces choses-là. Alors ma prière au départ, en revenant de la thèse, c'était que le Seigneur me réveille et qu'il fasse des choses comme ça. Et je pense que c'est notre cœur dans l'Église, que le Seigneur il nous réveille, qu'il nous bouge, qu'il souffle de son esprit et qu'il y ait quelque chose de, de puissant pour sauver d'autres gens. Et quand on regarde, on a deux exemples de réveil, enfin, au moins deux exemples, j'en ai pris deux, de réveil dans la Bible. Il y en a un au moment du roi Josias, dans la Bible. Il y en a un au moment du roi Néhémie aussi. Et la cause de ces réveils-là, la cause ou la source de ces réveils-là, ça a été les deux fois quand le peuple a lu la parole et quand ils l'ont étudiée. Et en fait, dans Néhémie 8, je trouve plus Néhémie. Il y a Néhémie et Esdras qui se suivent, et je les ai perdus tous les deux. Après les chroniques. Voilà. Néhémie, chapitre 8. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija, Maaseja, et à sa gauche, Pedaja, Michael, Malkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, il y a toute une série de noms, hein, c'est terrible, Jabetaï, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pelaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et c'est après qu'ils ont recélébré la fête des tabernacles, qu'ils ont remis en place tout un culte à l'Éternel après avoir lu la parole. Et c'est vraiment un point clé pour nous, et j'ai lourdement insisté ce matin, mais c'est un point clé pour nous de lire et de comprendre et de réfléchir, de travailler. Et là, en fait, dans un sens, c'est un mauvais exemple, parce que les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place et écoutait. Ils lisaient, ils donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Il y a quand même quelqu'un à la base de ce réveil qui a dû chercher à comprendre et qui après l'a expliqué aux autres. Dans ce sens-là, les prédications, c'est bien. Parce que c'est-à-dire ce que nous, on a compris, on le partage aux autres. Mais il a fallu travailler, il a fallu étudier la parole. Et dans du temps de Josias, c'était la même chose, en fait. On voit que la Bible a été retrouvée dans le temple, ils essayaient de le reconstruire, et ils l'ont amené, ils l'ont lu, et c'est là qu'il y a une prise de conscience du roi Josias, et qu'il y a eu un grand réveil dans tout le pays. Et c'est vraiment, pour moi, un encouragement de dire, si on veut un réveil, si on veut que le Seigneur y travaille nos cœurs et qu'il nous fasse grandir, alors il faut qu'on lise la parole et qu'on travaille. Ouais, je vais prier. Seigneur, on te remercie d'avoir conservé ta parole intacte jusque nous, Seigneur, et d'en avoir des quantités vraiment, Seigneur, énormes, d'en avoir assez à notre disposition pour faire ce qu'on veut. Seigneur, on l'a dans notre propre langue aussi, ce qui est tellement une bénédiction. Et Seigneur, je te prie qu'on puisse ne pas négliger ces choses, Seigneur, ne pas négliger les perles, comme disait Corinne tout à l'heure, Seigneur. Tu nous as fait venir depuis des centaines, des milliers d'années, Seigneur, toutes ces choses, tu l'as gardé précieusement pour nous. Et on ne prie que qu'on ne soit pas des simples auditeurs, mais qu'on remonte nos manches, Seigneur, qu'on retrousse nos manches, qu'on travaille, qu'on creuse, Seigneur, qu'on fasse l'œuvre comme pour les fermiers, pour leurs champs, Seigneur, qu'on fasse place nette pour ta parole et qu'on puisse l'étudier. Seigneur, c'est vraiment le mot travail qui me reste dans mon cœur et que tu nous aides, Seigneur, à pas nous rendormir, mais vraiment à prendre notre courage à deux mains et à attaquer ces choses, Seigneur, à étudier ta parole. Et je te prie, Seigneur, pour chacun, tous ceux qui s'y mettront, Seigneur, ou qui continueront, qui ont été encouragés, Seigneur, que tu les diriges. Seigneur, des fois, on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas comment lire les choses, comment faire. Et Seigneur, toi seul, tu peux nous aider. Seigneur, tu es l'auteur de toute ta parole et toi seul, tu sais exactement ce que tu veux dire. Et je te prie que par ton esprit, tu touches nos cœurs, tu nous aides à étudier, Seigneur, à prendre ce qu'il nous faut pour notre croissance, pour devenir des adultes, pour ne pas rester simplement des enfants, mais devenir des adultes utiles à toi qui puissent te servir. Et Seigneur, qu'on puisse devenir effectivement des maîtres, Seigneur, en maîtrisant ta parole, en la connaissant, et que ça puisse te servir, Seigneur, pour ta gloire, et Seigneur, pour que tu sois glorifié au milieu de nous et à l'extérieur aussi, au milieu de tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Amen. Il y a Nathalie qui me rappelle que...